drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de dissous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Nous étions nombreux à la basilique Saint-Sernin pour les obsèques du professeur Jacques Harlet. Nous avions, Claude et moi, eu l'habitude de le recevoir chaque fois que Jacques Harlet, ce professeur devenu la parole historique de Toulouse par tous ses ouvrages, venait nous parler de sa dernière publication au micro de Radio Occitanie. C'était un personnage immense. Un de ces Toulousains remarquables qui est le livre qu'il avait consacré à tous les Toulousains qui se sont illustrés, il en faisait partie. Jacques Harlet s'est donc éteint à 101 ans. Il était professeur de rhumatologie, c'est lui qui a introduit la cortisone dans le traitement des rhumatismes. Il a fondé avec d'autres la clinique Pasteur et pendant sa retraite, il s'est occupé, et ô combien, à des tâches d'écriture, d'historien, mais également, il avait publié un roman. Alors tout ceci est sur notre site lespoètes.site, que je vous invite à revoir, et en cette période, bien, nous avons décidé, Claude et moi, de repasser un enregistrement du 25 décembre 2015, où Jacques Harlet, ce mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui avait été élu en 2002 au premier fauteuil de l'Académie, chevalier de la Légion d'honneur, officier des Palmes académiques, ses professeurs émérites de l'Université Paul Sabatier, faculté de médecine, ancien président de la Société française de rhumatologie et président fondateur de l'Association internationale de recherche sur la circulation osseuse, docteur honoris causa de l'Académie de Dublin, archiviste adjoint de l'Académie des sciences, inscription une belle lettre de Toulouse, et auteur, je vous disais, sur l'histoire de Toulouse du XIXe siècle, sous Louis XIV, et de biographie. Il avait été l'ami de Casimir Perrier, qui était lui-même l'ami de Jacques Bray. Alors, vous pouvez voir les émissions le concernant sur ce site, notamment dans les années 2013, le site lespoètes.site. Nous allons maintenant passer cet enregistrement cet amoureux de Toulouse qui était venu parler de ce livre « La vie à Toulouse entre les deux guerres ». C'est aux éditions Loubatière. Auparavant, il y a dans cet enregistrement Monique Saint-Julia pour une de ses publications. Or, Monique Saint-Julia, que vous entendrez dans cette émission, a également fait paraître très récemment Colin Maillard aux éditions L'Air, mais cela est une autre histoire et nous vous en reparlerons au cours de l'année 2022. Nous souhaitons, Claude et moi, d'excellentes fêtes à tous les auditeurs et nous vous disons à l'année prochaine.
Nous avons ce soir la joie d'avoir dans ce studio de la rue d'Assali Jacques Arlet. Monsieur Jacques Arlet, bonsoir. Merci beaucoup.
Bonsoir, cher ami.
D'être venu nous parler d'une de vos publications, La vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres. Monsieur Arlet, vous le savez, cette émission est une émission de poésie et je vais donc, avant de vous donner la parole sur ce livre tout à fait passionnant, faire la présentation de trois ouvrages. Ce sont trois dames que j'ai choisies ce soir. Je vais présenter rapidement, évidemment, pour ne pas amputer trop sur le temps qui vous est imparti. Alors, il s'agit de Monique Saint-Julia, que vous connaissez bien, qui fait paraître aux éditions L'Air un jour de plus à aimer. Alors, on retrouve, je dirais, toute la poésie un petit peu maniériste, disons, mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, de Monique Saint-Julia, qui a l'air d'être douée d'une espèce d'optimisme rayonnant, qui est très très agréable, en tout cas qui fait beaucoup de bien en cette période, et qui ressemble un peu à ce qu'elle fait en peinture, hein, quand on regarde, par exemple, ces tableaux de chats, d'oiseaux ou de fleurs. Il y a là une vie papillonnante, une vie toute riche de couleurs et extraordinairement joyeuse. Là, on retrouve ça dans une poésie qui est une poésie également avec un langage quand même très recherché et une poésie vraiment très achevée, je crois. Je vais lire deux textes. Dont un à Guy Goffet, donc le poète Guy Goffet. Vous avez si bien écrit, si bien chanté, éclaboussé de sève rieuse les ciels, rendu si juteuses les fines agapes de l'été, les rencontres de la terre, de la mer, que me reste-t-il à dire, à inventer, à ronronner, qui soit neuf, frais, à se mettre sous la dent, laisse un goût d'herbe tendre, comme celle de l'âne de la fontaine ou l'image de votre paradis. La ruée de vos jours, l'oubli du temps, les cerises qui roulent dans la bouche, rouges et tendres, comme un parfum d'enfance. Vous avez si bien aimé, courtisé, fredonné, l'amour frileux qui s'échappe lestement comme un chat entre deux portes à l'orée du printemps. Que me reste-t-il à dire? Alors, c'est un bel hommage qu'elle fait à Guy Goffet, c'est bien, aussi les poètes qui rendent un petit peu hommage à ceux qui les ont inspirés. L'aube, c'est toujours le même manège, heure d'étoiles pâlissantes, de lunes songeuses, heure des platanes en méditation, ici et là, des chapelets de lueurs, des coudes à coudes de maisons, tabliers de jardin, noués à la sauvette, les grilles, les routes, les trottoirs, semblent grandis dans le silence. Les sons ne cessent de monter, les volets ouverts claquent, les arbres bourdonnent d'oiseaux, le bassin gargouille, et tout un concert de vent bruit dans les feuillages, tandis que des pas résonnent, vite effacés, par le roulement d'un train qui file vers une destination inconnue. Voilà une poésie de célébration, une poésie de la nature. Monique Saint-Julia, Un jour de plus à aimer aux éditions L'Air, que je vous invite évidemment à vous procurer. Vous trouverez toutes ces références sur notre site et le compte-rendu de cette émission qui sera fait sur notre site les-poètes.fr. Et puis je voudrais revenir très rapidement sur Isabelle Lévesque. Un très très beau livre, Nous, le temps l'oublie, aux éditions L'Herbe qui tremble. Donc très bien réalisé là aussi avec une très belle illustration. Isabelle Lévesque, dont nous avons souvent parlé ici, qui collabore avec Daniel, aux côtés de Daniel Martinez, à cette revue Diérèse, et qui poursuit depuis quelque temps un bonhomme de chemin en poésie, qui est tout à fait remarquable. Destin, de briller gronde. Bat le temps, butoir à corps, tu ronges le frein du feu, tu tritures le volet des fées dérangées, fleurs, ah! Soudain le désordre des boutons, tiges et l'orange ovale brûlent, t'as mieux, c'est pire. Alors là aussi c'est une poésie de célébration, on retrouve la nature, etc. Mais il y a toujours une forme interrogative chez Isabelle Lévesque, une espèce de d'étonnement et d'interrogation permanente devant l'univers. Pas poème, un jour seul, premier degré, sens littéral. Rien pour martel en tête, habit très court et dessous, rien. Pas parler, à dire trop, taire assez. Bouche, je veux, rien de conditionnel. Toi, sans fin, tissu jeté, même déchiré, pourquoi pas érigé. Crinière et force à cœur de fibre, cheveux longs, laissés, oreiller, plume à paille de loup, chasse gardée, pas intrus, laissé verrou, tiré, satiété. Voilà, Isabelle Lévesque, Nous, le temps l'oublie, un très beau livre pour offrir à Noël. Qui vous coûtera 16 €. Isabelle Lévesque est née et qui vit en Normandie et qui a publié donc ses premiers livres de poèmes en 2011, hein, donc c'était tout très très récent, et qui donc collabore à la revue Diérèse, mais également à Terre des Femmes, à Poésie Bao et Recours aux Poèmes, et puis qui a été publié pour la première fois par Michel Cousem aux éditions Ancreville. Et puis pour finir, donc je vais revenir sur le numéro 52 de Nouveau Dédit, animé par Cathy Garcia, avec une dame aussi, Marie-Françoise Jesquier, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site. Alors moi je l'ai connue, cette Marie-Françoise Jesquier, encore une fois, par les éditions Ancreville. C'est une jeune dame, puisqu'elle est née en 1966, qu'elle a étudié les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, à l'Université Lumière Lyon 2, où elle obtient d'ailleurs sa maîtrise de lettres. Et elle vit actuellement en Saône-et-Loire, près de Chalon-sur-Saône. Donc elle a publié des poèmes dans les revues Décharges, et puis aux éditions Carder, c'est-à-dire l'éditeur Bruno Mcika, sur lequel a publié Cathy Garcia, également moi aussi, j'ai publié chez ces éditions Carder, et puis des éditions Encre Vive. Alors, ma fille Françoise Jesquier, ses poèmes favoris sont ses poètes favoris sont Esther Tellerman, Cédric de Mangeau, Édouard Glissant, Marie-Laure Zos, Michael Auchan, etc. Et Ariane Dreyfus aussi. Un tout petit extrait. De tout bois si, branchie de poisson lune, on respire à travers. Le doute s'insinue avec ses atomes crochus, on respire du noir, souffle heurté dans le cœur calciné des tournesols, calciné le centre du cygne, le jamais dit brûle en corolle, immole les tentatives de parole, lambeaux de son brûlé, flageole aux tiges dupliquées jusqu'à l'horizon. Je dupliquais jusqu'au morphème entre ses plats, mordant l'âme, mais ne voyez-vous pas que tout le retenu dans la face à face glace le dos des ombres. Vos mains nervurées, tenues comme des feuillages fragiles, infranchis, demeurent cet espace vide, tout cela retenu jusqu'au plus bas talus où les sons d'herbe ramassés sur eux-mêmes, repliés en fréquence acerbe, en fréquence de fragile demeure, affaissés au bas côté, fréquence oscillante et noire du cœur, et leur tracé sur le blanc glacé des bas de page où tombe poussière de mots pauvres, la lumière. Voilà, vous pouvez lire cela dans le numéro 52 de Nouveau Délit. Vous trouverez nos coordonnées, les coordonnées de cette revue, pardon, sur notre site les-poètes.fr. Alors, Jacques Carlet a publié un nombre assez important d'ouvrages sur la vie toulousaine. Dans ces ouvrages, il y en a un dont nous allons parler aujourd'hui, le dernier étant La vie à Toulouse sous Louis XIV, qui est aussi un épisode absolument passionnant de notre cité, mais on reviendra là-dessus. Je tenais depuis longtemps à faire cette émission sur la vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres, parce que il me semble que ce qu'est devenu, ce qu'est Toulouse aujourd'hui, c'est dessiné. Bien entendu, on pourra dire aussi que ce qui s'est passé avec les troubadours, avec Louis XIV, etc., n'est pas sans influence sur notre vie toulousaine, qu'on le veuille ou non. Mais là, vraiment, cette vie à Toulouse, dans l'entre-deux-guerres, c'est ce qui a dessiné quand même la vie à Toulouse actuelle. Hein, à partir de après la libération, donc on est dans cette Toulouse qui va monter jusqu'à être cette métropole rayonnante qu'elle est aujourd'hui. Et donc il est bon de savoir ce qui s'est passé. C'est une période qui est très riche, hein, période très riche, cette entre-deux-guerres de Toulouse, où on voit que Toulouse jouit, je dirais, d'un franc-parler, hein, d'une certaine liberté de vivre, une liberté d'être un petit peu à part, malgré tout, hein, dans la France, puisqu'elle est encore quand même à cette époque-là un petit peu excentrée par rapport à Paris et loin. Hein, on ne va pas à Paris comme ça. Il y a une distance à tous les points de vue entre Toulouse et Paris.
Il faut y monter.
Il faut y monter, voilà, on monte à Paris. On monte à Paris, hein, c'est de la province à Paris. Et donc, il y a effectivement, dans ce terme de monter, il y a un petit peu une notion un peu de condescendance vis-à-vis de Paris. Voilà. Alors, la vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres, il y a là toute une fresque historique quand même importante, on peut dire, des personnages qui sont des personnages terriblement marquants, des personnalités très très fortes à cette époque-là. Et c'est de cela dont, M. Harlet, je vais vous demander de nous parler, étant précisé que ce livre est publié aux éditions Loubatière dans la collection Histoire, qu'il est aussi très très bien illustré. Et qu'il a été également à cette époque-là, il y a eu une exposition qui a été faite par la bibliothèque municipale de Toulouse, qui s'appelait Toulouse entre les deux guerres, donc pareil. Oui. Hein. Les écrivains, les artistes et le livre, et il y a un catalogue, j'espère qu'il est toujours en cours ce catalogue, parce que vraiment, à mon avis, on est là dans une publication qui est intemporelle, hein, qui est merveilleusement illustrée. C'était vraiment de la très très belle ouvrage qu'avait fait la bibliothèque municipale, et vraiment on ne pourrait que encourager maintenant nos bibliothécaires à prendre un peu exemple sur ce qui a été fait avant.
Ce catalogue m'a aidé, voilà, d'ailleurs.
Ah oui, oui.
C'était le moment où j'écrivais aussi, et je commençais à écrire le livre sur Toulouse entre les deux guerres. Voilà. Comme vous dites, que Toulouse actuelle était déjà un peu en germe dans la Toulouse entre les deux guerres, c'est évident à beaucoup de points de vue, et en particulier du point de vue de l'aviation. Si nous n'avions pas eu la TECOR, C'est une aventure extraordinaire, c'est épique. Et nous n'aurions pas Airbus, je le pense. Je pense que là, ça se tient, n'est-ce pas? Et le travail qu'a fait la TQR est absolument fantastique. Voilà.
Et qui est dû également à la guerre de 14.
Bien sûr.
Certainement, hein, le repli.
Donc, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a là une liaison étroite. On est étonné de voir aussi l'importance de l'université. Alors que, en 1930, il y avait 4000 étudiants, et que maintenant nous en avons 120 000. Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'à Toulouse qu'il y a eu cette explosion des universités, qui est quand même très satisfaisante, il faut le reconnaître. Puisqu'enfin, si nous croyons que l'ignorance est un mal et que l'instruction est un bien, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'étudiants. Voilà, peut-être un peu trop, c'est vrai. On les prend un peu trop facilement, mais quand même, entre 4 000 et 120 000, hein, en l'espace, un peu plus de demi-siècle, enfin, c'est extraordinaire.
Et ça bouscule totalement, bien entendu, tous les principes de gestion de la ville, l'économie, oui, etc.
Complètement. Ouais. Il y a eu, dont nous avons eu des professeurs éminents, et en particulier Paul Sabatier, avec le développement de l'Académie des sciences, qui pratiquement n'existait pas au début du 19e, quoi. C'est une création de la fin du 19e et du début du 20e. Et Paul Sabatier est un type très sympathique, entre autres, très efficace, puisqu'il a été prix Nobel.
Oui.
Très sympathique, entre autres, parce que il se trouvait très bien à Toulouse. Et que quand on lui a proposé d'aller être professeur à Paris, il a dit, mais j'ai rien à faire à Paris. Hein, je me trouve très bien à Toulouse. Voilà ce qu'il a dit de son discours, que je vais me permettre d'en dire un mot. J'ai eu beaucoup de chance. C'est là, d'ailleurs, la grande raison des succès scientifiques, la chance. Je crois qu'une des raisons de ma chance est l'affection que j'ai trouvée partout à Toulouse. On a évoqué tout à l'heure mon obstination à rester dans cette faculté. Des cérémonies comme celle-là, ce jour-là, je crois qu'on l'avait décorée de la Légion d'honneur, grand officier de la Légion d'honneur. Des cérémonies comme celle-là paieraient de bien des sacrifices. Mais le sacrifice aurait été surtout de partir de Toulouse. Je trouve que c'est rare. Hein.
Oui, c'est rare, c'est rare. Alors ça veut dire que déjà à cette époque-là, il y avait un art de vivre, ouais, à Toulouse qui retenait. Hein,
aussi.
Bon,
aussi.
Ouais. Je crois que cet art de vivre, il part de loin.
Hein. Voilà. Et l'activité artistique aussi m'a beaucoup frappé. Nous en parlons souvent avec Marianne Miguet. Il devrait y avoir un musée de la peinture du XXe siècle toulousain, parce que nous avons eu, surtout dans la première moitié du siècle, nous avons eu une dizaine de bons peintres, n'est-ce pas? Depuis Bouyer, Bergougnan, Espinasse, Arthur Fage, Henri Martin, Marcel Lenoir, qui a décoré une des salles de conférence de l'Institut catholique à la demande de Camille Soula. Vraiment une variété de peintres qui n'ont pas été très influencés par le cubisme ni par l'abstraction. Il y a eu une espèce de période là où... D'ailleurs c'est vrai, ce n'est pas vrai qu'à Toulouse, une période où les peintres ont attendu quelques années avant de se lancer là-dedans, si j'ose dire. C'était une invention précoce, un peu trop. Donc c'est plutôt du néo-impressionnisme, mais de qualité, et on regrette beaucoup qu'il n'y ait pas de place pour eux dans les musées toulousains. Les Augustins s'arrêtent à la fin du 19e, et les musées des abattoirs, lui, commencent avec la peinture dite contemporaine. Voilà un des points aussi qui me paraît important. Il y a eu beaucoup de sculpteurs, comme on le sait, n'est-ce pas, à la suite de Falguière et de Bourdelle, qui sont restés leurs élèves longtemps, et les ébénistes aussi de qualité, comme Arbus, qui était international. Voilà. Alors le rugby aussi, il faut en parler un petit peu, peut-être. Et là, j'ai appris une chose très désagréable, c'est qu'il y a eu une crise de rugby. Monsieur Ramplon, qui a fait un livre complet sur le rugby toulousain, a parlé de gigantesque crise. Mais c'est vrai qu'en 1930, il y a eu 5 morts au cours, sur les terrains de rugby. Extraordinaire. Parce qu'il y avait un décès complet des arbitres. Il y avait une espèce d'emballement des fanatiques qui descendaient sur le terrain et qui se bagarraient même sur le terrain, donc ça a été affreux. Et les Anglais ne voulaient plus jouer avec nous. Il a fallu créer, justement, le challenge du manoir, qui était alors d'origine française et qui était réservé aux gentlemen.
C'était les hooligans, à cette époque-là, c'était les Français, quoi.
Voilà. Donc, on a oublié ça et il faillit. Oui. Ramplon dit même que le rugby à 15 a failli disparaître. Là.
Oui, à ce point.
À ce point.
Oui. C'est dû à cette passion. Enfin, il y a un peu de démesure aussi. Hein,
dans, il y a un peu de démesure.
Chez le Toulousain, quand il se passionne.
C'est vrai. Voilà, alors moi je suis à votre disposition pour qu'on parle de ce que vous avez envie.
Mais on pourrait parler peut-être d'un maire, hein.
Nous avons eu 3 maires à ce moment-là. Hein,
voilà.
Et le deuxième, évidemment, quand même, a marqué. Et Paul Fugat, de 1919 à 1925, je crois, oui. Le deuxième, Étienne Billière.
Étienne Billière, voilà, oui.
Vous savez, qui n'est resté que 10 ans, parce que malheureusement, il est mort en Algérie au cours d'une période de vacances. Il avait fait son service militaire là-bas, il a voulu aller avec ses enfants en Algérie, il était diabétique, il a attrapé une plaie, et ça s'est aggravé, il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque, etc. Bon, ça a été dramatique. Mais pendant ces 10 ans, quand même, il a fait beaucoup, Vienne Bidière, dans le domaine culturel, en particulier sportif. Bon, c'est lui qui est à l'origine du stadium, et de tout cet ensemble sportif, n'est-ce pas, qui est quand même très important. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cet ensemble, un ensemble pareil. Et c'est lui qui a également fait construire la bibliothèque municipale de la rue de Périgord, que je connais bien puisque j'y habite, et qui est une grande réussite architecturale de l'art décoratif. Il y avait beaucoup d'architectes à Toulouse. Ils ont pris le départ des arts décoratifs peut-être avec une certaine lenteur, mais il y en a qui ont bien réussi, en particulier cette bibliothèque qui est très belle.
Magnifique, et qui a été magnifiquement restaurée.
Cette grande pièce là est admirable.
Oui, la coupole, c'est...
Et comme vous dites, elle a été restaurée, on y a mis des techniques modernes qui sont évidemment indispensables et qui rendent bien service. Donc, il avait un remords. Il pensait, quoi, jusqu'à la fin, de ne pas avoir mis le tout à l'ego partout. Ça, c'était son problème. Il avait fait un éclairage, quand même, assez remarquable, je crois, des rues de Toulouse. Mais il voulait mettre le tout à l'ego. Effectivement, on attendait ça depuis longtemps. Depuis Louis XIV, on peut dire. Alors, il n'y a pas cette grande ville qui manquait de tout à l'ego. Voilà.
C'est la période radicale socialiste, on va dire.
Socialiste, il faut dire.
Socialiste.
Parce que c'est une bédière socialiste.
Oui.
Mais avec Toulouse a été effectivement politisé par les radicaux socialistes, comme la France entière. Nous étions dirigés par les radicaux socialistes à la fin du Troisième République, quoi, il faut le reconnaître. Et en particulier à Toulouse par les Sarraux.
C'est
une grande habileté qui a réussi à créer des lobbies, à distribuer ce qu'il fallait comme bureau de tabac et autres, etc. Et qu'on crée véritablement cette ambiance, voilà. Mais ils ont été dépassés par les socialistes. Et en particulier après la guerre, donc il y a eu quand même une période bleue, mais après ça, on avait arrivé donc les socialistes, et Billière est un socialiste libéral, il faut le dire. Hein. Et bon, il y a, je ne sais pas, je trouverai ce texte, mais ce n'est pas très important. Mais il était évidemment laïque, il ne s'est pas fait enterré à l'église, mais à l'occasion de son enterrement, il y a eu un papier très sympathique dans la vie catholique toulousaine. Voilà. Il dit quand même qu'il avait toujours rendu service à l'église de ce qu'on lui demandait. Voilà.
Et Paul Fuga?
Paul Fuga, évidemment, a laissé moins de traces. Bon, il est surtout tombé sur une période où il n'y avait pas un sou, il n'y avait plus un sou. C'était l'endettement majeur. Donc, quand on fait la guerre, on se fout complètement de l'équilibre économique, n'est-ce pas? On ne fabrique que de la poudre et on ne dépense d'argent que pour la poudre. Vous savez que l'Ognia, le territoire de l'Ognia est occupé par l'agrandissement de la poudrerie qui occupait tout ce terrain. Voilà. Il y avait 30 000 à un moment donné ouvriers et ingénieurs qui travaillaient sur ce terrain pour fabriquer de la poudre uniquement pour ça. Bon, la guerre, c'est mauvais, ces côtés affreux que l'on connaît, mais celui-là quand même est un peu effrayant aussi quand on pense qu'on dépense de l'argent pour ça, pour faire de la poudre à canon. C'était ça. Et alors, on y a mis l'Ognia.
Oui, oui.
Parce que l'Ognia, ça a été... C'était une...
Alors, est-ce que
on
c'est
avait
vrai
obtenu,
que...
obtenu ça à cause du traité de Versailles. Oui,
c'est un brevet allemand.
Un brevet
c'est
allemand.
Ça, brevet allemand.
Un brevet allemand. Oui. Il savait fabriquer l'ammoniac,
oui.
Alors que nous ne savions pas le faire.
Oui.
Les Allemands étaient très forts en chimie.
Oui.
Hein.
Oui.
Et donc, ils ont laissé ce brevet. Ça a été proposé à des sociétés privées qui n'ont pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est l'État même qui a pris en charge l'installation de l'Ognia. Et qui était propriétaire et en même temps administrateur.
Voilà. Une chance pour tout le monde.
C'est pas mal d'ailleurs. Bon, oui. Évidemment, la fin est triste. Je le reconnais. Bon, oui. On ne sait pas si. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est passé.
Oui. Mais pour les auditeurs qui ne seraient pas toulousains, l'Ognia a été ensuite. Évolué sur la ZF, ce qu'on
appelle. Voilà, la ZF. La ZF, la ZF a explosé un beau jour. Voilà, de quoi voulez-vous que nous parlions, que nous parlions maintenant?
Peut-être alors des artistes qui ont jalonné cette période. Hein.
Des artistes. Grande période artistique, à mon avis, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, pour la sculpture, il y en a une bonne dizaine aussi qui ont travaillé, qui étaient d'ailleurs instruits à l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts a toujours été, elle a été créée sous Louis-Philippe, donc. Elle a toujours été exemplaire, cette école des Beaux-Arts, et en plus, non seulement on y enseignait bien, mais on y enseignait les gens qui n'avaient pas de moyens. Et avec, en dehors des heures de cours normales, les cours du soir, ou de simples ouvriers qui étaient obligés de travailler pour gagner leur vie, mais qui avaient des dons, et qui se sentaient capables de faire des belles choses, allaient apprendre. Voilà, et ça,
c'était pris en charge, on parlait des Beaux-Arts, c'est la ville de Toulouse, en définitive, qui
oui, très bien ça. Ça s'était installé même au début du 19e.
Ah, oui, oui.
Et donc il en est sorti des gens éminents. Ah, bon, oui, oui. En matière de sculpture, en particulier Falguière et Bourdel, qui sont quand même de grands sculpteurs français, reconnus comme tels. Et il y avait un certain Vivint, Claude Vivint, qui a été le directeur de l'école des Beaux-Arts avant Parère. Oui. Parer est un homme très dynamique, un bon sculpteur, je veux dire, il a des traces dans la cour de la bibliothèque municipale, de la bibliothèque de la rue du Périgord. Bonjour. Et une chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'il a dirigé l'atelier le plus important de Martre de Lausanne. Et qu'il a essayé, c'est un problème à Martre, qui existe toujours, de faire autre chose que du Martre. Parce que, bon, c'est vrai que ça se reconnaît tout de suite, du Martre. Et que nous en y vont pour acheter du Martre.
Oui, oui.
Mais il serait content aussi qu'il y ait autre chose.
Donc il voulait
régénérer
cette alliancerie-là.
Des Martres, type art décoratif, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
C'est pas développé.
Oui.
Abal, dont est un bon sculpteur aussi, indiscutablement, qui a commencé à Paris, qui a terminé à Carbone, où il y a un musée Abal à Carbone, que je connais bien, puisque j'ai une maison de campagne à côté. Un certain Sarah Bézol, qui était intéressant, parce que lui, il faisait de la taille directe dans le ciment. Ça, oui. Ça, vous savez ça, vous avez appris ça. Oui. Mais il fallait tailler le ciment à un certain moment, parce qu'il n'était pas tout à fait sec et froid, quand il était encore tiède. Sinon, on ne pouvait plus. Après ça, il fallait les portes au piqueur. Et il a travaillé en particulier pour l'exposition universelle de Paris.
Alors, le béton et le métal, c'est très utilisé dans l'art déco.
Oui,
dans toute la structure de l'art déco.
Enfin, vous savez, là, l'utilisation du métal, ça a commencé avec la Tour Eiffel et ça a commencé à la fin du
19e. Oui, le 19e, oui. Et Jean Montorio,
classique de béton,
pour nous, à Toulouse.
Moi, je ne suis pas.
Il y avait quand même une effervescence assez. À la proportion de la ville à ce moment-là.
Sûr,
hein.
Bien sûr.
C'est entre deux guerres, Toulouse avait combien d'habitants?
Eh bien, ils ont dit qu'ils n'auraient pas plus de 150 000. Par au-dessus de 150 000, on payait des impôts en plus.
Oui, oui. En fait, il y en avait peu de
100 000. Donc, on cachait le reste.
Oui, oui.
Mais enfin, on a doublé, quoi.
Oui, oui.
On a
doublé. Oui, oui. Il y avait 200 000 habitants,
oui,
quoi,
oui.
En gros. Hein.
Voilà.
Oui.
Alors, les peintres aussi ont été assez remarquables. On en a parlé tout à l'heure. On a fait une exposition Bergougnan.
Ah oui.
Au château de la Réole récemment, qui était intéressante. On a fait une exposition de Saint-Saëns aussi, parce que, comme vous le savez un peu, la tapisserie a été rénovée par, rappelez-moi, le grand, celui qui a lancé l'affaire, au début de la période d'occupation. Ils ne sont pas restés à Paris, là. C'est pas Picard le Doux, c'est Denis Saint-Saëns, c'est celui qui a. Enfin, j'ai un petit trou, là, on va le trouver. Et il s'est installé à Figeac, et il a dit venez faire de la tapisserie avec moi. Voilà. Oui.
Et une très belle tapisserie de lui à la bibliothèque José Cabanis.
Exactement. Et donc, Saint-Saëns, qui savait tout faire d'ailleurs, Saint-Saëns, parce qu'il faisait de la peinture de chevalet, c'était un excellent dessinateur aussi, et il savait faire de la fresque aussi, puisqu'il a laissé plusieurs belles fresques à Toulouse, et en particulier à la bibliothèque municipale.
Oui.
Saint-Saëns s'est mis à faire la tapisserie, avec un dessin tout à fait intéressant, très moderne, hein, avec des couleurs aussi assez étonnantes, et je connais bien toutes ces gouaches préparatoires de ces tapisseries, parce qu'on voulait faire une exposition chez les Toulousains de Toulouse sur ces gouaches préparatoires, et il y a des lissiers d'Aubusson à l'époque, j'étais allé causer avec eux, qui disent que le meilleur de ces tapissiers de l'époque qui ont commencé à faire de la tapisserie moderne, actuelle, alors que ça traînait un peu la tapisserie. On utilisait de vieilles peintures d'avant, autrefois, du 18e, du 19e, c'était pas très créatif. C'est cela, ils ont vraiment fait de la création artistique remarquable. Et donc ces lissiers d'Aubusson me disaient que, à leur sens, le meilleur de ces 4 ou 5 grands tapissiers de l'époque, c'était Saint-Saëns. Voilà. Et malheureusement, TPC a pratiquement disparu avec ce qu'on appelle l'art contemporain. On fait n'importe quoi en appelant ça une tapisserie.
Voilà. Ça a été repris après par des gens comme Tapiès, mais c'est tout à fait dans un autre esprit.
Oui.
Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est.
Triste.
Alors, c'est une époque très, très florissante dans tous les domaines. Domaine des écrivains, domaine également alors de la spiritualité aussi, hein, puisque à cette époque-là, Toulouse va avoir un évêque qui est quand même un évêque hors norme, l'évêque qui est devenu cardinal ensuite par la suite, hein, le cardinal Saliège.
Alors, ce cardinal Saliège avait ses idées à lui. Il était d'origine très simple, rurale, un Auvergnat. Et on l'avait envoyé évêque à Gap, je crois.
Oui.
Et donc, il est arrivé à Toulouse. Je crois qu'à ce moment-là, il n'avait pas les troubles neurologiques qu'il a eu ensuite. Il a fait une espèce de maladie assez curieuse qui lui en particulier touchait la prononciation du langage. C'est bien qu'on ne comprenait plus très bien ce qu'il disait. On disait il y a le langage Saliège,
oui. Quand les Allemands sont venus pour l'arrêter, la servante a désigné du doigt le cardinal Saliège et a dit mais vous n'allez pas prendre ça. C'était extraordinaire quand même.
Oui.
Dans le but, bien entendu, de le sauver.
De le sauver.
Oui.
Et donc, il a joué un rôle très important à ce point de vue-là, parce qu'il a parlé un peu plus fort que d'autres. Certains n'ont pas parlé, n'ont pas dit grand-chose. Enfin, il n'est pas le seul, tout à fait, les archevêques qui sont intervenus, mais lui, il a parlé avec beaucoup de force. Ceci a été diffusé dans toutes les églises, et en disant que c'était absolument insupportable et ignoble de faire des arrestations comme ça au nom de du racisme et de la religion. Voilà. Et chacun connaît ce texte.
Ça, bien entendu, c'était sous l'occupation, c'est-à-dire pendant la guerre. Hein,
pendant la guerre.
Mais avant, il s'était déjà illustré par ce qu'on appelle les menus propos.
Exactement. Ouais. Alors, il écrivait, au lieu d'écrire des textes ennuyeux dans la vie catholique.
Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est vraiment.
Il s'est mis à écrire des petites formule tout à fait sympathique et en même temps très très forte.
Oui, très, très profonde.
Et très profonde. Oui. Où est-ce que je l'ai mise? Saliège, voilà. Alors ça s'appelait Menu Propos. Dans la semaine catholique de Toulouse à partir de juin 37. Je peux vous en citer quelques-uns, par exemple.
Oui.
13 mars 38. C'est perdre son temps, c'est perdre sa peine que de ne pas aimer. Oui, c'est superbe.
Oui, c'est superbe. Parce que c'est dit avec beaucoup de simplicité.
Encore en 38. Deux moyens, deux pensées parmi tant d'autres, l'étonnement et le paradoxe. Il était pour la critique. Il trouvait que justement les chrétiens habituels n'osaient pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils avaient d'autres. Et c'est dommage. C'est un peu une erreur de l'Église. C'est pas avec l'autocratisme papal. Voilà, donc il était pour la critique.
Il était très en avance pour son temps. Hein.
Très en avance pour son temps. Alors, voilà qu'il parle de politique, c'était facile à prévoir. C'était le 10 décembre 1939. Le bolchevisme triomphant a traqué le christianisme. Hitler s'est appliqué haineusement à remplacer l'évangile du Christ par l'évangile de la race. L'un et l'autre ont préparé et voulu l'orgie meurtrière.
Oui.
10 décembre 1939.
Oui. Donc avec un style toujours percutant, hein, il écrivait, c'est merveilleux.
Très court et très net et clair. Pour éviter Hitler, ne pas tomber dans les bras de Staline. Pour éviter Staline, ne pas tomber dans les bras de Hitler.
Oui.
Janvier 40.
Oui.
Les autres? Qui les autres? Nos frères les incroyants? Les impies, les sectaires, ils existent, oui. Le Christ est mort pour eux. Il faut le rappeler de temps en temps. Il n'est pas venu pour lui.
Bien sûr.
Pour les gens qui vont à la messe le dimanche. Le Christ est mort pour eux.
Oui.
À cet effet, il compte pour moi. Prêtre.
Il y avait un sens du raccourci, du condensé.
Et ça aussi.
Tout à fait étonnant. Hein.
Je ne sais pas pourquoi je l'attribue à Jean-Paul II, ça. Mais en fait, je viens de le relire ces jours-ci. Lisez la liste de le livre de Job, d'une saisissante actualité. Qui est Job? Vous, moi. Quoi donc? Mais oui, il suffit d'une bombe bien placée et la maison est soufflée. Il était évolutionniste aussi. Un peu théardien probablement, mais il n'osait pas peut-être trop le dire. À l'époque, il y avait Solache quand même qui l'était aussi. Une philosophie évolutionniste de l'univers montre le triomphe de l'esprit, de la conscience et de la personne. C'est très important aussi ça, parce que c'était pas tellement admis par la Curie, ça. Et ça aussi, c'est formidable. Quand un élève est paresseux ou indiscipliné, ne cherchez pas ailleurs. C'est le professeur qu'il faut amender.
Ça, c'est très dangereux.
Très important, oui.
Oui,
moi, je me rappelle, l'enseignement avec mon ami Fika, on disait... Cette question-là, ils ont tous répondu mal.
C'est nous qui l'avons mal expliqué.
Parce qu'ils l'avons mal appris, c'est tout. C'est notre faute.
Alors, dans cette période entre-deux-guerres, il y a une épopée dont nous n'avons pas parlé. On va peut-être terminer là-dessus. C'est l'épopée de l'aéropostale. C'est-à-dire l'épopée de l'aviation civile, qui se développe, l'aviation civile... en France, se développe véritablement à partir de Toulouse. La capitale, et d'ailleurs elle est restée, la grande chance de Toulouse, c'est effectivement d'être toujours quand même la capitale de l'aviation civile. Hein.
La TQR, vraiment, il est à l'origine du développement de l'aviation en général, et de l'aviation du courrier, le transport en particulier. Il était de Bayard de Bigorre, comme vous le savez, et il avait déjà développé l'atelier de son père, qui était menuisier, un peu ébéniste. Et il fabriquait des wagons de chemin de fer à Bayard de Bigorre.
Oui.
Il avait des commandes de centaines de wagons de chemin de fer. Et alors, comme il voulait se développer, il a dit, il ne faut pas rester à Bayard, il faut s'installer à Toulouse. Et il est allé s'installer au bout des allées des Demoiselles. Il y avait à la fois le canal et le chemin de fer qui passait là. Et donc, la guerre est arrivée et il a fabriqué donc des obus, comme tout le monde. Je crois qu'il a fabriqué, je ne sais plus, j'ai mis le chiffre, mais ça ne pense pas de grosse importance, c'est pas d'intérêt. Des millions d'obus, voilà. Et puis, en 1917, alors le ministre de l'Armement a décidé qu'il fallait fabriquer des avions, il était temps, en quantité, et il est allé trouver la TQR, il lui a dit, voilà, il me faut 1000 avions dans un an, et la TQR a dit, mais bien sûr, d'accord, tout de suite. Et pratiquement, ils ont été faits. C'était plus facile à faire.
Oui.
Bon, ils étaient en toile et en bois. On cassait du bois, mais enfin bon. Et une date importante, c'est que le 11 novembre 1918, il a créé la première compagnie d'aviation commerciale. Le 11 novembre 1918. Il a dit, maintenant c'est fini, on ne va plus faire d'avion pour la guerre, il faut faire autre chose, commencer par transporter le courrier et les gens. Il a créé la compagnie qui s'appelait SEMA, Et c'était tout à fait caractéristique, ça voulait dire compagnie Espagne, Maroc, Algérie. Voilà. Et donc la première tentative a été faite en décembre 1918.
Oui, tout à fait.
Tout de suite. Voilà, Barcelone. Je suis un peu cassé la gueule, mais ça n'a pas marché très bien. Et par contre, le 3 mars 1919, hein, alors là, ils ont fait. Ils sont allés à Casablanca. C'est une réussite parfaite avec deux avions, parce que lui suivait toujours par derrière.
Il est arrivé à
Casablanca. Oui. Il a déposé un bouquet de violettes auprès de Madame Lyoté. Et à partir de ce moment-là, il a créé à Casablanca la poste, l'aéropostale.
Oui, une épopée qui a suivi après dans.
Et après ça, il a fallu aller plus loin, c'est-à-dire en Mauritanie, puis ensuite au Dakar,
jusqu'à la Brigue
de traverser l'Atlantique. Et chaque fois, il fallait créer, des aéroports, des aérodromes. Et il fallait créer aussi des ateliers de réparation. Donc c'est un travail considérable.
Et même des relais, puisque Saint-Exupéry, par exemple, était à Cap Juni.
Voilà, exactement, c'est là qu'il a écrit, d'ailleurs.
Oui.
Quelqu'un de ses livres.
Et donc, cette épopée, donc, elle est due également au génie de ces gens.
Il savait très bien choisir ses ingénieurs. Lui-même savait très bien choisir ses ingénieurs, il avait plein d'idées, et en particulier un certain Dora.
Oui,
qui a joué un rôle essentiel parce que c'était aussi un organisateur, un type sévère, mais en même temps très chaleureux. Oui. Et puis il avait aussi avec lui Boine, que j'ai connu moi.
Ah oui.
Parce que quand j'étais étudiant, je connaissais les. Chez Boine et c'est. Et alors on a été invité à aller voir l'hydravion qui est en préparation, qui devait s'appeler le maréchal Pétain, est un truc immense. Parce qu'il a fini. C'était l'époque des hydravions à ce moment-là. On en faisait un peu partout, en Allemagne, en Angleterre, en France. Et il est arrivé l'hydravion avec 6 moteurs. Et ils ont traversé l'Atlantique avec ça. Puis l'hydravion a perdu un peu
l'hydravion, son
intérêt. Mais enfin, ils ont traversé l'Atlantique Sud. Premier traversé à l'Atlantique Sud, avec Mermoz, avec un hydravion. Un hydravion, la Técoère. Donc, il avait acheté donc un grand terrain, Montaudran, chacun sait qu'actuellement.
On essaie d'utiliser pour en faire un lieu de mémoire, etc. Donc ça aussi, une grande épopée.
Très belle histoire. Et alors,
à la fois technique et humaine.
J'oublie tous ceux qui travaillaient. Bien entendu, les aviateurs qui produisaient les avions, mais aussi les mécaniciens, mais aussi, etc. Et Mermoz a dit, mais vous savez, moi, je suis rien du tout, je suis un de ces gens-là. Et il perdait beaucoup de monde au départ. Il y a eu 100 morts dans les 10 ou 20 premières années.
Saint-Exupéry raconte que quand il est arrivé à la Técoère, la première chose, il avait fait des loopings dans le ciel pour se faire. Et bien entendu, ça a beaucoup déplu. et Dora l'a mis immédiatement aux ateliers de réparation. Les mains dans le cambouis. Alors ça aussi, c'est un état d'esprit de cette époque-là et qui a permis cette obstination, mais également, je dirais, cette humilité qu'il y avait à cette époque-là, dans ces gens comme Dora, la Técoère, etc., qui étaient des gens d'une ambition très grande, mais qui en même temps
très efficace,
avec cette lucidité, un état d'esprit vraiment, exceptionnel.
Et ils ont eu donc des aviateurs, des pilotes extraordinaires, de grand courage et d'une grande habileté, parce que Guillaume Valéry Mermoz, etc.,
il y avait
un sac aussi, grand pilote extraordinaire.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait finir, il nous reste 4 minutes, par vous demander de lire un extrait de ce livre, La vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres, de Jacques Harlet aux éditions Loubatière.
Alors donc, moi je vous ai lu un extrait de Mgr Saliège et de Paul Sabatier. Alors c'est difficile après de telles personnalités, n'est-ce pas, de me citer, je veux dire.
Même.
Alors, voilà. Par exemple, je pourrais dire, on a beaucoup parlé de Mermoz parce qu'effectivement, bon, il était beau garçon en plus, il était très chaleureux, finalement très ouvert avec ses camarades, etc., et les mécaniciens. Et on peut dire qu'il a été célèbre et célébré dans la France entière. Il était beau, la chevelure blonde, les yeux bleus, une prestance et une présence. On avait surnommé l'archange. Cette célébrité le gênait. Il disait, je n'ai rien fait de plus que Guillaumet et Riguel, rien de plus que Rennes et Antoine. Nous tous ici, nous formons une équipe. À la ligne, c'était la ligne. Nous avons renoncé à la gloire individuelle. Il ne faut pas l'oublier, oui. Ça, parce qu'on va lui reprocher d'être un peu, oui. C'est pareil. Il était un peu de droite, je crois, alors c'est pour ça que... Oui. Il ne voulait pas d'une hiérarchie sociale, d'une différence entre le pilote et le mécanicien. Voilà ce qu'il écrivait. Que l'on ne vienne pas me parler des différences de classe et de formation. Il n'existe qu'une hiérarchie sociale, celle de la valeur et de l'honnêteté morale. Je ne connais que cette vérité, et je hais ceux qui, par leur égoïsme ou leur sectarisme, font que les hommes peuvent se mépriser ou se haïr sous prétexte qu'ils n'ont pas la même formation, qu'ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Je hais encore plus cet état d'esprit depuis que j'ai perdu Colnau, etc. Donc c'est également une belle phrase, ça, on peut l'ajouter à celle de...
Qui n'a pas perdu...
Voilà, celle de Sabatier et Saliège.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y avait aussi, je dirais, des hommes remarquables sur le plan de l'éthique, hein, à cette époque-là. Quand voilà. Même, hein, des gens qui allaient au-delà, très au-delà, et pour cette époque-là, quand même, c'était...
Et qui parlaient bien
oui,
et
qui
fort parlaient
bien, oui, qui parlaient très bien.
Et clairement. Voilà.
Tout cela est passionnant.
Ça nous manque, ça nous manque.
Oui, je crois. Oui. Et bon, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Par exemple, le café des Américains, qui était le plus grand café de France.
Les Américains.
Oui. Hein. Bon, plein de choses sur cette vie qui était quand même une vie très effervescente, hein, à Toulouse, dans l'entre-deux-guerres.
Tous ces cafés... Hein. Il y avait de la musique dans tous ces cafés.
Oui,
c'était extraordinaire.
Oui, il y avait vraiment une vie... c'était très agréable.
Il y avait
très
dans tous ces cafés.
Oui. Alors, merci beaucoup, Jacques Harlet. On rappelle le titre de votre ouvrage, La vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres, aux éditions Loubatière, Histoire. Voilà, je vous invite donc à vous procurer ce livre. Et puis, si vous le voulez bien, nous prendrons rendez-vous pour d'autres commentaires sur vos livres, en particulier sur la vie à Toulouse sous Louis XIV, et puis peut-être aussi revenir sur les... Nous avons parlé un petit peu de quelques-uns, des Toulousains remarquables.
Oui, ça m'intéresserait,
voilà,
ça, oui.
Hein, que vous avez... Voilà, c'est toujours... Je crois que c'est bien de... De rappeler à Toulouse quand même quelle a été les grandes personnalités qui ont présidé.
Les grandes personnalités dont on parle peu.
Dont on parle peu. Voilà. Des Toulousains remarquables. Alors ça aussi, ces deux livres sont d'excellents livres pour les cadeaux de fin d'année. Et je crois que vous les trouverez dans les librairies toulousaines. En particulier, je crois que il y a une librairie qui est rue de Rémusat actuellement, qui vend vos ouvrages. Voilà. Merci beaucoup. Merci Monsieur Jacques Arlet, c'est un grand plaisir, et donc à très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane, et puis une excellente préparation pour ces fêtes de fin d'année. À la semaine prochaine, Adicias.